Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui. On vous en dit un peu plus dans les prochaines minutes. En attendant, voici les principaux titres de ce mercredi 23 octobre 2024. L'Assemblée nationale ghanéenne ajournée en raison de sièges vacants contestés. La haute cour kényane examine le recours de Rigathi Gachagua contre sa destitution. Anthony Blinken appelle Israël à profiter de la mort de Yahya Sinwar pour établir une trêve à Gaza. Pour nos dossiers du jour, coup de projecteur sur la révolution économique du piment à Uvira en RDC, ainsi que l'engagement pour une consommation locale au Togo.
Créons plus de la valeur ajoutée à cette graine et donc nous améliorons donc les revenus de nos producteurs et nous créons également plus d'emplois.
Page éco, le SMU met en garde contre l'incertitude mondiale pour 2025 face aux risques géopolitiques et économiques. Enfin, en sport, nous ferons le point sur le bilan de la 46e Assemblée générale de la CAF à Addis Abeba, mais d'abord le journal. Au Ghana, l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux hier pour une durée indéterminée. Cette décision intervient à la suite d'un différend juridique concernant la décision du président du Parlement de déclarer vacants 4 sièges parlementaires. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
La suspension de l'Assemblée nationale a été déclenchée par une nouvelle confrontation hier entre le parti au pouvoir, NPP, et le principal parti d'opposition, NDC, qui détient désormais une faible majorité après la défection de 4 députés mi-octobre. Le NPP a contesté la légalité de cette action et saisi la Cour suprême, la Constitution interdisant aux députés de faire défection du parti avec lequel ils ont été élus. D'après le chef du NPP, Alexander Afenio-Martin, les députés de son parti ont quitté la séance afin d'éviter une confrontation physique avec l'opposition qui a pris leur siège en signe de protestation liée au siège vacant. Le président de l'institution, Alban Bagbin, constatant l'absence d'une majorité de parlementaires, a donc décidé l'ajournement de la Chambre pour une durée indéterminée. Cette suspension entraîne l'arrêt de toutes les activités législatives à moins de 2 mois des élections générales prévues le 7 décembre et pourrait aussi compromettre l'adoption de projets de loi cruciaux et du budget pour l'année 2025. Début janvier 2021, l'armée était intervenue dans l'enceinte du Parlement pour établir le calme entre les députés des deux partis, alors que la tension était montée au moment de l'élection du président de la Chambre.
Au Kenya, la haute cour a commencé hier à examiner un recours du vice-président déchu Rigathi Gachagua contre sa destitution la semaine dernière. L'audience qui a été ajournée reprend aujourd'hui les précisions de Yakuba Ouedraogo.
Hier, les débats se sont ouverts en présence du vice-président déchu, Rigathi Gachagua. Mais la procédure judiciaire a été contestée par ses avocats et par le chef de l'État, William Ruto. L'équipe de Gachagua a remis en question la composition du panel de 3 juges pour l'affaire, soutenant qu'il n'avait pas été constitué par la présidente de la Haute Cour, Martha Koubé, mais par son adjoint. Dans une saisine distincte, le président William Ruto a estimé que la Haute Cour n'a pas compétence sur l'affaire relevant selon lui de la Cour suprême. Le Sénat a jugé la semaine dernière Rigathi Gachagua coupable de violations graves de la Constitution, de menaces envers les juges et de pratiques politiques de division ethnique. Le chef de l'État a nommé le ministre de l'Intérieur Kithure Kidini pour le remplacer à la vice-présidence. Jugeant sa destitution anticonstitutionnelle et précipitée, les avocats de Gachagua ont saisi la haute cour kényane qui a suspendu le remplacement de ce dernier, citant des questions constitutionnelles monumentales.
En Tunisie, Ayachi Zamel, candidat malheureux à la présidentielle du 6 octobre, a écopé de nouvelles peines de prison. Il cumule désormais 31 ans pour des affaires liées au parrainage. Les précisions avec Mohamedou Oumfa.
Le tribunal de première instance de Kairouan a condamné lundi soir Ayachi Zamel dans 3 affaires séparées liées au parrainage, avec une peine d'1 an et 8 mois de prison pour chaque affaire, soit un total de 5 ans de prison, a indiqué son avocat, Maître Abdesattar Messaoudi. Ses 3 frères, poursuivis par la justice dans ces mêmes affaires, ont aussi été condamnés à un total de 5 ans de prison, a-t-il ajouté. Selon Maître Misaoudi, M. Zamel, qui cumule jusqu'à maintenant 31 ans de prison, doit comparaître jeudi devant le tribunal de première instance de Manouba, près de Tunis, dans une autre affaire liée aux falsifications de parrainage. Au total, 37 poursuites séparées ont été lancées à son encontre dans tous les gouvernorats, selon son avocat. M. Zamel, un industriel de 47 ans, est en détention depuis début septembre, ce qui l'a empêché de faire campagne. Il n'a obtenu que 7,35% des voix lors de l'élection remportée par le président sortant, Kaï Sayed, dans un contexte d'abstention record.
Au Soudan, les forces paramilitaires ont attaqué des villages dans l'est de l'État d'El Ghezira, faisant au moins 25 morts suite à la défection d'un officier de haut rang à Bouaglakeïkal, d'après des activistes. Cet officier, originaire de la région, avait jusqu'alors réussi à protéger les civils des violences. Un groupe de bénévoles, nommé l'Observatoire central des droits humains, a indiqué qu'au moins 7 villes et villages du secteur avaient été touchés par des attaques vengeresses en violation de tous les accords visant à protéger les civils et du droit international humanitaire. Depuis décembre, d'autres divisions des forces de sécurité soudanaises avaient déjà causé des destructions dans l'État agricole.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne a confirmé hier soir avoir éliminé Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah, dans une frappe sur Beyrouth début octobre. Hachem Safieddine est le chef du conseil exécutif du Hezbollah. Dans cette frappe, l'armée dit avoir tué aussi Ali Hussein Azima, un haut responsable du Hezbollah. Le groupe islamiste libanais n'a pas réagi immédiatement à cette annonce. Au moins 7 frappes israéliennes ont ciblé la banlieue sud de Beyrouth, suivant des appels à évacuer plusieurs quartiers. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé hier Israël à tirer parti de la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza au moment où Israël multiplie les frappes au Liban contre le Hezbollah. Jacques Aristide.
En visite à Jérusalem, le patron de la diplomatie américaine a exhorté le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à prendre des mesures supplémentaires pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils d'un bout à l'autre à Gaza, selon le département d'État. Anthony Blinken, qui effectue sa 11e tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre dans le territoire palestinien, a souligné le besoin de tirer parti de la mort de Yahya Sinwar en assurant la libération de tous les otages et en mettant fin au conflit à Gaza, a indiqué le département d'État. D'après son bureau, Benjamin Netanyahou a dit à son interlocuteur que la mort de Yahya Sinwar pourrait avoir un effet positif sur le retour des otages. La même source ajoute que l'entretien a également porté sur le type de gouvernement qui pourrait être mis en place après la guerre à Gaza. Pendant que les deux dirigeants se rencontraient, des frappes aériennes israéliennes ont visé un fief du Hezbollah, Beyrouth, un mois après le début de la guerre au Liban. Le secrétaire d'État Blinken espère également dissuader une escalade militaire entre Israël et l'Iran, qui soutient le Hamas et le Hezbollah après l'attaque de missiles iraniennes du 1er octobre contre Israël. Les deux hommes, selon le bureau de Benjamin Netanyahou, ont évoqué la nécessité pour leurs deux pays d'unir leurs forces contre la menace iranienne.
Les gangs haïtiens multiplient les attaques dans les zones qu'ils ne contrôlent pas encore et la situation en Haïti s'est malheureusement aggravée, a averti hier la directrice du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, devant le Conseil de sécurité de l'ONU après plusieurs jours de violences renouvelées de la part d'une alliance de gangs armés. L'ONU a ratifié il y a plus d'un an le déploiement d'une force de sécurité internationale pour aider la police à rétablir l'ordre. Mais à ce jour, seule une fraction de 3000 soldats promis par une poignée de pays est arrivée. Les autorités taïwanaises ont signalé la présence d'un groupe aéronaval chinois dans le détroit de Taïwan après des manœuvres militaires menées par Pékin, incluant des tirs à munitions réelles. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant à notre Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques et financières avec Lionel Gaïma.
L'Afrique du Sud considère la Russie comme un allié précieux, a déclaré mardi le président Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État sud-africain s'est exprimé lors d'une réunion bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine à la veille du sommet des économies émergentes de BRICS qui se tient dans la ville russe de Kazan. L'équipementier en télécommunications finlandais Nokia a ouvert un centre d'innovation à Salé au Maroc. Selon un communiqué publié mardi, le centre d'innovation Nokia est le premier du genre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique. Face aux risques persistants, le Fonds monétaire international reste prudent pour l'économie mondiale. À l'occasion de la publication de son rapport annuel sur l'économie mondiale, mardi, le FMI s'est inquiété d'une hausse de l'incertitude au niveau mondial du fait d'une multiplication des risques tant géopolitiques qu'économiques, parmi lesquels la possibilité de voir l'activité économique chinoise montrer des signes supplémentaires de faiblesse. En conséquence, le FMI a révisé en légère baisse ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour 2025, attendues à présent à 3,2% comme en 2024.
Passons à présent à l'actualité sportive avec un focus sur des avancées majeures annoncé pour le football africain. Nous accueillons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
La 46e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF s'est tenue hier à Addis Abeba en Éthiopie.
C'est une Assemblée Générale sous la forme de bilan pour le président de la CAF, Patrice Motsepe, élu en mars 2021 et dont le poste sera remis en jeu en mars 2025. Dès l'ouverture de cette Assemblée Générale, le Sud-Africain a souligné les acquis obtenus par le football africain.
Good progress has been made. We're going to pass an ExCo resolution in the next few days.
Des progrès importants ont été réalisés. Nous allons adopter une résolution du comité exécutif dans les prochains jours, lancer un appel d'offres et inviter de nombreuses sociétés privées à soumissionner et à participer à ce plan de la CAF pour s'assurer qu'au cours des 8 prochaines années, si 1 milliard de dollars est mis à la disposition du football, chaque centime de cet argent doit être consacré au développement du football. Il doit servir à investir dans la jeunesse. Il doit servir à investir dans des académies pour les garçons et les filles.
In investment in academies for boys and girls, and part of the plan is to ensure that.
Et une partie du plan consiste à s'assurer que si nous parvenons à ce que chaque nation africaine ou chaque association membre reçoive 1 million de dollars chaque année de la CAF à partir de 2026, beaucoup de progrès auront été réalisés.
In 2026, a lot of good progress will have been made.
En attendant, les nations africaines continueront à lutter pour être prises au sérieux sur la scène mondiale, foi de Patrice Motsepe qui a aussi fait l'éloge de l'approche tolérance zéro à l'égard de la corruption au sein de la CAF et a noté le nouvel esprit qui, selon lui, existe désormais au sein de l'organisation.
There's a recognition in the world that there's zero tolerance.
Le monde entier reconnaît qu'il y a une tolérance zéro. C'est la tolérance zéro pour la corruption à la CAF, la tolérance zéro pour les pots de vin, la tolérance zéro pour les violations et le non-respect des statuts et règlements de la CAF et de la FIFA. De nombreux progrès ont été réalisés. Je suis très fier du travail accompli par Verona. Je suis très fier de ce que fait le secrétariat de la CAF.
Présent à Addis Abeba pour cet AG ordinaire de la CAF, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est une fois de plus revenu sur la présence attendue de plus d'équipes africaines lors du prochain mondial.
For the first time in less than 2 years from now in the World Cup 2026.
Pour la première fois dans moins de 2 ans lors de la Coupe du Monde 2026, 9 ou 10 pays africains participeront à la Coupe du Monde. Il en avait 5 jusqu'à la dernière Coupe du Monde. Nous doublons le nombre de pays africains participant à la Coupe du Monde, ce qui stimule évidemment les investissements dans le football et le développement du football dans toute l'Afrique.
Le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Entamons à présent nos dossiers du jour avec un reportage spécial unique sur la culture du piment comme moteur de prospérité à Sandje en RDC. C'est dans l'est de la République démocratique du Congo, à Sandje, dans le territoire d'Uvira, une région verdoyante du sud Kivu où la terre fertile commence à donner une nouvelle opportunité économique qui est la culture du piment. Grâce à un contrat entre une coopérative locale et la Chine, cette plante épicée pourrait transformer la vie de ceux qui travaillent la terre. Le reportage de notre correspondant Zanem Netizaidi.
Ici à Lubérizi, dans le territoire d'Uvira, plusieurs hectares sont dédiés à la culture du piment. Les cultivateurs retournent la terre et préparent les semis. Chaque plante soigneusement entretenue est une promesse de récolte à venir. Mbeni François, cultivateur, prépare son champ.
Je prépare les semences pour les répliquer dans mon champ. Dans 3 semaines, les plantules seront prêtes à être mises en terre. C'est un travail important qui va nous permettre de gagner notre vie.
Le travail de la terre est difficile. Les cultivateurs doivent labourer, semer et arroser sous un soleil de plomb. L'effort en vaut la peine car cette nouvelle production et source de revenus stables.
L'année dernière, je vendais ma production uniquement sur le marché local. Aujourd'hui, avec ce contrat, je suis motivé à cultiver plusieurs hectares car les acheteurs chinois sont prêts à payer un bon prix.
La coopérative Mikono ya Wajenzi, qui veut dire la main des constructeurs en Swahili, est au cœur de ces projets. Elle a mobilisé les cultivateurs de la plaine de la Ruzizi pour assurer une production suffisante. Jean Massémon, président de la coopérative, nous explique l'ampleur du travail.
Nous avons planifié 250 hectares. Et à l'heure où je vous parle, nous avons déjà enregistré plus de 185 hectares dont les agriculteurs s'engagent à produire les piments. Et la première livraison du piment interviendra au mois de mars 2025. Et pour la première livraison, nous sommes sûrs et certains que nous pouvons arriver à 250 tonnes.
À Uvira, au site Kivu, la culture du piment pourrait bien devenir le pilier de l'économie locale. Avec des contrats stables et des prix attractifs, les cultivateurs espèrent améliorer leur quotidien et dynamiser toute la région. Zalem Netizaidi pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique en RDC sur 97.4 à Bukavu.
Au Togo, c'est le mois du consommer local. Depuis 5 ans, des activités de promotion de tout genre de produits locaux se font sur toute l'étendue du territoire. Pour cette année, l'accent est mis sur les enjeux et les défis du développement du tissu industriel pour une consommation locale dynamique et durable. De nommer notre correspondant Kossi Oussou.
C'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, qui est à l'origine de cette initiative pour promouvoir la production locale dans les 8 pays membres. Pour Aminata Lopai, représentante résidente de la commission de l'UEMOA au Togo, il est question d'intensifier les actions auprès des populations afin qu'elles adoptent les produits transformés localement.
Les objectifs poursuivis à travers cette initiative sont entre autres la promotion de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits locaux, l'encouragement des populations à la consommation des produits locaux, la création d'emplois à travers la transformation industrielle des produits et la fourniture des biens et services.
Au Togo, les autorités misent sur la création d'usines de transformation des matières premières locales, à l'exemple de l'usine Togo Soja installée sur la plateforme industrielle de Lomé qui peut traiter les 2/3 des 300 000 tonnes de production annuelle du soja. Toyo Yao, président d'un groupement d'intérêt économique de producteurs de soja, estime qu'il y va de l'intérêt de tout le monde de s'inscrire dans cette dynamique.
Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, des leaders de la production et de l'exportation du soja togolais depuis près de 15 ans, nous avons compris qu'avec cette unité de transformation du soja, nous créons plus de la valeur ajoutée à cette graine et donc nous améliorons donc les revenus de nos producteurs et nous créons également plus d'emplois à travers la transformation locale.
Kuigan Yawa, porte-parole du gouvernement, se félicite de cette prise de conscience des acteurs du secteur agroalimentaire.
Il faut que tout l'écosystème de la production et de la commercialisation au niveau national puisse se trouver dans un partenariat constructif et vertueux avec ces unités de transformation pour que cette ambition de réaliser l'industrialisation puisse être atteinte par les efforts de nous tous.
Chaque année, le Togo importe plus de 200 000 tonnes de riz pour satisfaire le marché local. Pour ce mois du consommé local, des caravanes et des expositions de produits transformés au Togo se font sur toute l'étendue du territoire national pour susciter l'intérêt des populations à consommer local. Kossi Oussou, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Plusieurs États membres de l'Union européenne demandent à l'Union de mettre un frein à l'immigration alors que les partis politiques de droite sont de plus en plus nombreux à bénéficier d'un soutien des électeurs. Mais l'Espagne va à l'encontre de cette tendance et insiste sur le fait que la population vieillissante de l'Europe a besoin d'une migration contrôlée pour stimuler son économie. Le reportage d'Henri Riduel avec la voix de Gaby Dorsil.
Plus de 42 000 migrants clandestins sont arrivés en Espagne depuis le début de l'année, soit une augmentation de 2/3 par rapport à 2023. La plupart d'entre eux arrivent sur les îles Canaries, à plus de 100 km des côtes africaines. Rien que l'année dernière, environ 6 000 migrants sont morts en tentant la traversée, selon les groupes de défense des droits de l'homme. Mais pour beaucoup, les dangers sont compensés par le rêve d'une nouvelle vie en Europe. Massiré Konaré, 22 ans, est arrivé en Espagne en provenance du Mali.
Si vous réussissez ici, la seule chose que vous devez faire est d'aller en classe, de continuer à apprendre, de parler aux gens. Il faut être ouvert, surtout en tant qu'immigré. Il faut redoubler d'efforts et c'est ce que nous faisons maintenant. Si vous réussissez ici, la seule chose que vous devez faire est d'aller en classe, de continuer à apprendre, de parler aux gens. Il faut être ouvert, surtout en tant qu'immigré. Il faut redoubler d'efforts, et c'est ce que nous faisons maintenant.
Pour les migrants, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Le gouvernement espagnol y voit également un potentiel économique. À l'instar de nombreux pays occidentaux, la population espagnole vieillit rapidement. Elle a désespérément besoin de jeunes travailleurs pour développer l'économie et payer les impôts. Or, l'année dernière, le taux de natalité du pays a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, à moins de 1,2, soit l'un des plus bas d'Europe. S'exprimant lors d'un sommet des dirigeants de l'Union européenne jeudi, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a déclaré que l'immigration était vitale.
La compétitivité présente et future, le crescimento economico de nuestro país.
Notre compétitivité actuelle et future, la croissance économique de notre pays, la durabilité de notre modèle social dépendent également de l'immigration. Nous devons gérer les flux migratoires dans la perspective du défi démographique.
Mais face à la montée du soutien aux partis d'extrême droite en Europe, beaucoup d'États membres de l'UE souhaitent un contrôle plus strict de l'immigration. Il ne sera pas facile de trouver un équilibre. Dans le cadre de sa nouvelle approche, l'Espagne élabore une stratégie pour l'Afrique axée sur ce qu'elle décrit comme la transformation économique et sociale du continent. Tout en cherchant à faciliter l'immigration légale, l'Espagne tente d'empêcher les migrants clandestins d'arriver sur ses côtes. Elle souhaite que l'Agence européenne des frontières, Frontex, demande l'autorisation de patrouiller le long des côtes africaines afin d'intercepter les bateaux de migrants. De nombreux migrants sont traumatisés par leur voyage. Ahmed Karab, 21 ans, est originaire du Maroc.
Je voudrais donner un conseil à mes compatriotes et à mes amis. Ne venez pas dans un petit bateau, car ils sont très dangereux.
L'Espagne souhaite une solution à long terme pour la migration qui soit efficace pour l'Afrique et pour l'Europe. mais l'espoir d'une vie meilleure continue d'attirer des dizaines de milliers de personnes sur ces mers dangereuses.
Ici, aux États-Unis, dans tout le pays, environ 14 millions d'électeurs sont membres de syndicats, des organisations de travailleurs créées pour protéger leurs droits. Bien que les syndiqués ne représentent qu'une petite partie de l'électorat américain, les candidats à l'élection présidentielle cherchent ardemment à obtenir leur soutien. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous parle du Nevada où les syndicats ont une voix puissante dans le scrutin présidentiel de cette année. Le récit est de Michel Joseph.
Lors d'un rassemblement en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris à Las Vegas, les travailleurs syndiqués se sont montrés enthousiastes quant à son projet de supprimer l'impôt sur les pourboires ou les gratifications reçues par les travailleurs. Camille Castrol, représentante du syndicat des employés de Casino.
Je sais que la vice-présidente Kamala Harris a un plan clair pour mettre fin aux taxes fédérales sur les pourboires pour nous, les travailleurs du secteur des services ici au Nevada. C'est vrai, et que Donald Trump, qui prétend être le sauveur des pourboires pour les travailleurs, c'est un dangereux mensonge.
Le candidat républicain Donald Trump s'est également rendu dans cette ville, capitale du jeu, pour promouvoir son projet de ne pas taxer les pourboires des employés des casinos, des serveuses et des femmes de ménage. Lydie Lima, électrice de Trump du Nevada.
Cela va être adoré par les employés, par tous les employés, en particulier ceux qui n'ont pas de salaire et qui travaillent avec des pourboires. Ils vont adorer ça.
Trump a aussi gagné le soutien de la police de Las Vegas. Steve Grammas est le président de l'association de la police de Las Vegas.
La majorité de nos concitoyens font confiance aux forces de l'ordre. Et donc si les forces de l'ordre disent « Hey, nous pensons que cette personne a nos intérêts à cœur, qu'elle va assurer votre sécurité, qu'elle va essayer de faire prospérer notre économie », alors les gens font confiance à ce que nous disons.
Il a parlé du soutien de Trump aux forces de l'ordre lors de nombreux rassemblements.
Un homme comme Donald Trump et sa campagne ont toujours été à nos côtés et ont dit « Non, je ne veux pas me plier au vent de la politique ».
L'appui des dizaines de milliers de travailleurs syndiqués employés dans le Nevada est très recherché par les candidats à la présidence. Kamala Harris a également obtenu le soutien du syndicat local des routiers, mais l'Organisation nationale des camionneurs et des travailleurs d'entrepôt a refusé de soutenir l'un ou l'autre des candidats. Certains électeurs du Nevada y voient un signe important. Edward Cramer est un partisan de Trump.
Les routiers ont toujours été démocrates, donc maintenant, s'ils ne sont pas démocrates, ça veut dire qu'ils doivent plutôt pencher vers Trump.
Le syndicat des travailleurs culinaires de Las Vegas a soutenu Kamala Harris. Ted Papageorge est le secrétaire trésorier du groupe des travailleurs culinaires.
Les électeurs de la classe ouvrière sont intelligents, ils ne sont pas bêtes et ils sont un peu sceptiques. Mais le problème avec le président Trump, c'est qu'il ment, et il ment beaucoup. Cependant, pour la vice-présidente Harris, cela fait partie d'un programme global visant à lutter contre le coût de la vie.
Et ils font du porte-à-porte pour informer les électeurs.
Nous faisons du démarchage pour Kamala Harris.
Ok, nous votons tous pour elle.
Claudia Montréal est membre du syndicat des travailleurs culinaires.
Les grandes entreprises arrivent et pratiquent des prix abusifs sur la nourriture, l'essence, le loyer. C'est pourquoi il est important d'avoir le bon candidat, de leur donner les bonnes informations. Ce que je sais être un fait, c'est que Kamala sera là pour nous, la classe moyenne, les membres des syndicats.
Au Nevada, l'un des 7 États pivots, le vote des travailleurs syndiqués pourrait donc avoir un rôle décisif dans la course à la Maison-Blanche.
Point final à cette session du monde aujourd'hui. Un grand merci à Lionel Gaïma pour la réalisation et à Kelvin Fowler pour la technique. À la présentation, Nanit Salani, l'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voaafrique.com, sans oublier nos réseaux sociaux, nos plateformes Facebook, YouTube, X et Y. Instagram. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.